La troisième mi-temps Sud Radio.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans la troisième mi-temps Sud Radio, comme tous les lundis évidemment, le podcast rugby de Sud Radio, pour revenir sur le week-end rugby que vous avez vécu évidemment sur Sud Radio, la radio du rugby, avec Quentin Cabanis et Marius Louis-François. Bonjour messieurs.
Bonjour à tous.
Ça fait beaucoup de rugby.
Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire.
Ça fait beaucoup de rugby, ça fait beaucoup de Sud Radio, mais en même temps...
Écoute, au moins on sait où on est.
Bah voilà.
On est sur Sud Radio, on va parler de rugby.
Marketing.
Rugby.
Et on va parler de Top 14, la 22e journée de Top 14 qui a commencé ce samedi avec la victoire du Stade Français Paris face à Pau in extremis, 34-32 sur le gong, le bonus défensif pour les Palois. Dans le multiplex, Lyon est allé s'imposer à domicile contre Castres, 26-21, mais bonus défensif pour les castrés. Victoire du Racing 92 bonifié du côté de Montauban 59-10. Victoire également de La Rochelle du côté de Perpignan 31-29 dans les derniers instants aussi. Toulon s'est imposé et bonifié du côté de Bayonne 52-26. Samedi soir, Bordeaux est tombé pour la troisième fois de la saison à domicile face à Montpellier 23-21. Ça aussi, c'est s'est joué dans les derniers instants. Et enfin, vous l'avez vécu ce dimanche soir, Toulouse est tombé pour la première fois de la saison à domicile face à Clermont 27-24. Messieurs, avant de revenir sur 2-3 affiches en profondeur, on va se poser une question très simple dans ce podcast. C'est vraiment un coup de tonnerre qui est arrivé hier dans le Top 14, la défaite à domicile de Toulouse avec une équipe type. Clermont qui s'est déplacé chez les Toulousains avec une équipe type, c'est rare depuis le début de la saison, puisque généralement les équipes font tourner quand ils vont chez le grand Stade Toulousain. Christophe Hoyos ne l'a pas fait tourner. Christophe Hoyos a été récompensé de son pari. Messieurs, déjà, première analyse, qui a gagné ? C'est le Stade Toulousain qui a perdu ou Clermont qui a gagné cette rencontre, Marius ?
Un peu des deux. Clermont gagne quand même beaucoup. Clermont gagne à ce qu'il reste dans ce top 6. Alors bon, ils n'ont qu'un point d'avance sur leurs concurrents directs. Mais voilà, c'est une excellente opération. C'est un match où la plupart des équipes se seraient dit, comme tu as dit, on va balancer le match ou on perdra, on n'aura pas de points là-dessus. Donc Clermont gagne très très gros. Et alors Toulouse, comptablement parlant, ne perd pas grand-chose. En revanche, Toulouse peut commencer à s'inquiéter. Notamment du niveau de certains de ces cadres qui sont clairement pas à la hauteur.
Justement,
c'est ce qu'on a pu voir hier. Ouais.
C'est la question qu'on va se poser avant de passer cette question, Quentin. Qui a gagné le match?
Clermont a gagné le match, a priori.
Clermont l'a gagné par sa façon de jouer, ou Toulouse l'a perdu en déjouant de A à Z.
Alors ce serait
21-0 au bout de 10 minutes, il faut rappeler. 21-0 au bout de 10 minutes pour le Stade Toulousain.
Oui, je suis d'accord, je l'entends, mais ce serait manquer de respect aux Clermontois de dire que c'est Toulouse qui a perdu ce match. Clermont est arrivé avec une stratégie, ils ont fermé le jeu, ils ont choisi de se baser avant tout sur l'agressivité. Ça a fonctionné, on a vu que si tu veux prendre cette équipe du Stade Toulousain, mais c'est pareil avec l'UBB, ces deux équipes, si tu veux les prendre, il faut aller les tabasser. C'est ce que Clermont a choisi de faire. Alors, c'était pas forcément spectaculaire. On n'a pas vu de grandes envolées clermontoises, pas vu des courses exceptionnelles, des passes de 40 mètres. Mais ça a été diablement efficace. Donc, pour moi, c'est Clermont, évidemment, qui gagne ce match. Mais il faut aussi parler de la contre-performance des Toulousains qui n'a rien fait de bien à part les 10 premières minutes. C'était quand même très compliqué, des fautes de main, des mauvais choix.
Sachant qu'ils ont évolué à 13 contre 15, les Clermontois, pendant
8 minutes.
Ouais.
Puis il y a eu des choix, des changements très tôt dans le match qui n'ont rien apporté. Quand tu vois que Paul Graou sort à la mi-temps et qu'Antoine Dupont n'apporte rien.
Justement, pour refaire un petit récap sur Toulouse. Donc Toulouse s'est fait éliminer en quart de finale de Champions Cup par Bordeaux. Il y a maintenant... avec l'équipe type. Depuis, ils ont fait tourner pour aller à Castres, avec qui ils se sont imposés avec l'équipe B.
Voilà.
Et là, l'équipe type était de retour et s'est inclinée à domicile. Pour rappel, Toulouse est toujours premier, a toujours 12 points d'avance. On n'est pas inquiet pour les deux premières places pour le Stade Toulousain, c'est pas ça la question. Néanmoins, les quatre prochaines rencontres de Toulouse, c'est un déplacement à Toulon, un déplacement à La Rochelle, une réception de Lyon et un dernier déplacement du côté du Racing 92. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce inquiétant en vue des phases finales ? Est-ce inquiétant la forme des cadres, la forme des tauliers ? On pense notamment à Antoine Dupont, à Romain Tamac, à Thomas Ramos hier, qui n'a pas été très inspiré
dans la
rencontre. François Cross.
Il n'y en a aucun qui est sorti du lot. Julien Marchand, on l'a remplacé très tôt.
Comment on essaye, du coup, comment on analyse cette méforme un peu des cadres toulousains, où on a l'impression qu'en fait, les petits jeunes de 20 ans, ils ont bien plus fin que ses anciens.
Ouais, mais après, est-ce que aussi, moi, je suis en train d'émettre une petite hypothèse dans ma tête, c'est que Toulouse est déjà en train de préparer les phases finales de Top 14.
Ah, déjà.
Et que peut-être qu'ils chargent.
Donc,
vraiment,
ils ont un mois et demi d'avance, là.
Voilà, qu'ils sont en train de se préparer physiquement pour arriver.
Pourquoi tu le dis pas, ça? Pourquoi tu le dis pas? Parce que là, le grand public a la sensation
parce
que
Hugo Mola, Hugo Mola, il estime qu'il est que peu importe l'état de forme, ils doivent gagner hier.
Bah, bien sûr.
Et après, il y a une autre hypothèse que je commence à me formuler dans ma tête, c'est que ça va peut-être pas si bien que ça. En interne au Stade Toulousain aujourd'hui.
Quand tu vois quelques déclats.
Ouais, il y a des déclats. Quand il fait démarrer par exemple là, Antoine Dupont sur le banc. Alors Paul Graou, c'était sa centième avec le Stade Toulousain. C'est peut-être aussi pour lui faire un petit cadeau.
C'est pour ça.
Mais c'est ta centième avec le Stade Toulousain, on sort à la mi-temps. Julien Marchand quasiment
parce qu'ils sont pas dans le coup.
Non mais il y avait Dupont
s'il est pas titulaire, c'est aussi parce que c'est sur ses derniers matchs, il est clairement pas dans le coup.
Mais là t'es le Stade Toulousain, tu fais 4 changements à la mi-temps. Et ça n'apporte rien.
Les changements
à la mi-temps, il faut le signaler. La semaine dernière, tu fais jouer l'équipe B, ceux qui ne jouent moins, quoi. Ils prouvent à Castres qu'ils peuvent le faire. Hugo Mola a dit, bon, bah, on a montré déjà avec cette équipe-là, qu'on pouvait le faire. Maintenant, ça va être la semaine prochaine de montrer aux cadres qu'ils en ont aussi. Ils n'ont rien montré. Donc il y a aussi peut-être des choses qui se passent un petit peu moins bien en interne au Stade Toulousain dont on n'est pas forcément au courant. Mais il y a quelques signaux qui sont évidemment inquiétants. Mais je ne vais pas non plus pour l'instant m'alarmer pour cette équipe du Stade Toulousain en vue des phases finales. Hein. Il y a quand même encore.
Toi Marius, tu t'inquiètes
un peu. Il y a un peu de temps quand même. M'inquiéter. En fait, le problème c'était pas tant les défaites.
C'est la manière.
La défaite contre Bordeaux, j'étais pas si inquiet. Ça peut arriver. Là, c'est la manière. Je me dis que là, alors je continue à maintenir.
Tu peux pas avoir ces mecs là à ce niveau là pendant
un mois et demi. Quand même. Bah si, quand même. Et puis s'il y a quelques cadres qui ne sont pas au niveau encore, si d'autres rattrapent. Mais là, François Cros, c'est l'ombre de lui-même depuis qu'il est revenu.
Après, François Cros, Antoine Dupont, ils ont quand même vécu des dernières saisons compliquées par rapport aux blessures. Est-ce que là, ils n'ont pas un petit peu le contre-coup du retour?
Je ne sais pas, mais on en parlait hier pendant le match avec Alexandre Priam qui nous parlait du nombre de titularisations d'Antoine Dupont.
Oui,
qui, il me semble, a fait que 13 matchs de top 14 depuis la Coupe du Monde 2023. Donc on ne me dise pas qu'en tant que titulaire, c'est pas qu'il joue trop, c'est pas.
Non, mais les
mecs sont plus dans le coup. À la rigueur, il y avait Ramos et Ntamack qui pouvaient sortir du lot et continuer à maintenir la baraque. Hier, Ntamack fait un match assez correct pour le coup. C'est l'un des moins pires. Il fait juste quelques erreurs au pied.
Teddy Thomas qui fait un match.
Teddy Thomas fait un match plein, mais il est ailier, donc généralement, c'est pas là que ça va tout changer. Ramos, il n'y est pas du tout. Dupont, quand il rentre, Graou fait quelques mauvais choix. Il fait pas son meilleur match, mais il est pas non plus déplorable. On le sort, on fait rentrer Dupont, une fois de plus pas dans le coup.
Hugo Mola était quand même passablement agacé aussi par les choix de Graou.
Graou fait une meilleure mi-temps que Dupont. Hein.
Juste pour préciser, Antoine Dupont en effet a joué que 13 matchs depuis la Coupe du Monde. Il y a eu quand même deux blessures, un ligament croisé. Il y a aussi.
Il y a 2 ans et demi là.
Non mais
il est revenu il y a pas si longtemps.
Il est revenu en novembre.
Il y a eu cette saison,
il est revenu en novembre, Antoine Dupont, on sait bien que après un ligament croisé, il y a toujours un petit contre-coup, et ce qui peut expliquer le fait qu'il soit moins en forme. Mais c'est juste que il y a un truc ici aussi basique aussi que ça. C'est que le grand public attend tellement d'Antoine Dupont dès qu'il prend la balle, qu'il traverse le terrain, qu'il mette 2 post-it, un cul, une accélération et qu'il aille marquer, que en fait quand il fait un match. Honnêtement, hier, il fait une entrée qui est pas dingue. Il inverse pas la tendance.
C'est neutre.
Non, là, c'est là que je suis pas d'accord avec vous parce que
c'est un demi-mêlé. Cette entrée-là, elle est faite par, Motassi du Stade Français ou Bergeon à La Rochelle. Tu te dis juste, bon, c'est une entrée correcte.
Non, je trouve pas. Moi, je suis pas de ceux qui sont derrière Antoine Dupont à dire quand effectivement les gens en attendent beaucoup trop et il y a plein de matchs où il a fait des bonnes performances et on disait que c'était moyen parce qu'il n'y a pas eu cet éclair de génie.
Il va pas se lever la patrie tout seul.
Non mais bien sûr. Mais là je suis désolé. Hier, moi j'ai trouvé qu'il fait une entrée nulle.
Ben oui, mais les derrière un paquet d'avant qui
ne fait rien. Après attention, il y a aussi énormément de mérite pour Clermont qui joue très bien le coup et qui le cadenasse bien et qui fait un super match.
Surtout devant, comme dit Quentin, devant ils avancent pas.
Mais sauf que t'es pas censé perdre chez toi sur un match comme ça contre Clermont.
T'as pas avancé devant.
Il y a plein de problèmes. Mais t'es pas censé perdre ce match-là contre Clermont avec sa grosse équipe. Là, ça veut dire que sur un barrage, tu tombes sur une équipe qui joue comme ça, tu le perds. ou sur une demi-finale, tu le perds. Sur la finale, c'est différent, ça reste. Je maintiendrai mon discours, le Stade Toulousain en finale reste quand même très costaud, mais et encore que ça peut quand même tomber. Mais sur une demi-finale, là, tu prends un Clermont comme ça, tu prends un Montpellier, tu prends n'importe qui.
Ah, tu peux te retrouver sur
une demi-finale, tu la perds là. Tu joues comme ça, tu la perds. Et c'est là que c'est inquiétant pour Toulouse.
Oui, mais là où je te dis que moi je suis moins inquiet, c'est que t'as quand même plus d'un mois encore pour
non, mais bien
rebasculer.
Sûr. Mais
là, bon. Ils ont peut-être une petite période de trou, ils ont eu peut-être aussi du mal à encaisser, mine de rien, cette élimination face à l'Union Bordeaux-Bègles en Champions Cup. Ça fait 2 années de suite qu'ils se font taper par les Bordelais, ils doivent commencer à l'avoir bien mauvaise. Peut-être que ça cogite aussi. Justement,
ils auraient dû faire un match référence, un match plein et cartoucher, après, cartoucher les mecs, redonner de la confiance et qu'on me dise pas non plus qu'il y avait un coup de pression avec ce match de gala, maillot spécial et machin. C'est Stade Toulousain. Donc il y a pas de question de pression là-dessus.
Il y a des choses qui sont importantes de préciser. T'as des joueurs peut-être qui sont absents et qui sont peut-être un peu plus importants que ce qu'on imaginait à la base. Et encore, évidemment, mais je pense à Malia, qui notamment en début de saison s'est fait un genou. Je pense que Malia, sur ce genre de rencontre, il est dans les 23. Il est soit sur le terrain au poste d'ailier ou au poste d'arrière. Il peut dépanner également au poste 10.
T'as pas Malia, t'as pas Capozzo, qui est quand même aussi un sacré talent, qui peut te déverrouiller un match.
Anthony Gelon, maintenant, qui est un gros porteur en numéro 8, bah maintenant tu mets Roumat, qui est un peu plus dans le dur depuis quelques mois.
Roumat, il y a une gestion de Roumat qui est pas bonne.
Il est parti pour faire passer
sa gestion en plus, je suis d'accord, il est plus dans le dur, mais là où il pourrait aller mieux, la gestion que Mola et son staff ont de lui ne l'arrange absolument pas pour sortir de ça.
Il va bientôt se faire remplacer par Théo Ntamack.
Le seul qui me fait dire hier qu'il est au niveau de
base, dans le potentiel, c'est quand même le jour et la nuit.
C'est pas le même style aussi. Le seul hier encore qui me fait dire qu'il est au rendez-vous, et ça c'était déjà le cas contre Bordeaux, c'est Willis.
C'est le guerrier.
Encore une fois, en fait, ce qui était marrant, c'est que quand Toulouse tourne bien, Willis, tu te dis c'est un super supplément, mais en vrai, tu l'enlèves. Bon, il y en a des très bons, d'autres très bons gratteurs, troisième ligne, évidemment, il n'y a pas de problème. Là, tu as l'impression que lui, il est un niveau d'intensité que les autres n'arrivent pas à atteindre. Moi, c'est plus sur l'intensité, sur la nonchalance, sur certaines actions où on a vu des joueurs, j'aime pas citer des joueurs parce que ça arrive de faire des mauvais matchs, mais tu as vu des joueurs qui ont tenté des offloads, qui ont tenté des passes, qui ont voulu jouer un peu pour leur gueule, qui n'ont pas joué forcément en équipe. En fait, hier, Toulouse n'a pas joué en équipe. Ils ont joué en équipe 10 minutes, ils ont mis 21-0. À partir du moment où Clermont a commencé à gagner quelques collisions, a commencé à les embêter en touche, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Toulouse aussi embêté en touche ? En mêlée, c'était des cadets en face, c'était des petits jeunes du côté de Clermont.
Ah, puis après,
et pourtant, ils les ont embêtés. Comment on explique ça ? Est-ce que c'est vraiment la charge de travail parce qu'ils préparent les phases finales, chose qui est possible ? Ou est-ce que c'est juste une période où tu te dis, en fait, là, la mécanique de Toulouse qu'on pensait bien huiler, il y a des petits grains de sable qui sont en train de s'y mettre et il va falloir faire des gestions d'ego, des gestions de temps de jeu, des gestions de joueurs, peut-être resserrer un peu le groupe et arrêter d'envoyer tout le temps des cadets sans manquer aux petits jeunes qui se montrent, mais à un moment donné peut-être que tu dois jouer ta grosse équipe plus souvent.
Ouais, mais le truc c'est que c'est pas souvent les jeunes qui déçoivent à Toulouse, là Poulzec fait pas une mauvaise entrée,
peut-être que les cadres ils ont besoin de plus d'enchaînement
aussi. Il y a des postes où t'es moins régnant que précédemment. C'est pareil, je veux pas faire une fixette sur le pauvre Paul Coste, mais hier il fait quand même un match compliqué et par exemple un joueur comme
les mecs sont pas au niveau.
Non, et puis un joueur qui était ultra dominant à ce poste-là, Pitaki, il est pas remplacé par un joueur du même niveau. Je suis sans manquer de respect
Choco Barès était pas là, mais c'est
d'accord,
c'est très costaud.
T'as pas Choco Barès, t'as pas Barassi non plus qui est aussi out. Donc tu perds quand même techniquement quasiment peut-être ta paire de son titulaire, même si Gourgue, attention, Gourgue est arrivé un peu comme un ovni pour sauver le truc, mais t'as pas un mec du niveau de Haki sur les saisons où il va t'offrir des titres quasiment.
Mais en fait il y a il faut qu'il se resserre entre
deux piliers droit, t'es pas non plus Paul Malès, c'est pas non plus tu vois.
Là par exemple une stat sur le match d'hier, et c'était déjà criant contre Bordeaux, c'est sur les soutiens offensifs.
Là ils sont en retard.
10 turnovers hier pour Clermont.
Non, mais il y a une
10
action,
ballons récupérés.
Il y a une action qui est hyper
en avant
marquante
ou sur turnover. En fait, je trouve Toulouse hyper en retard parce qu'en fait, comme Toulouse attaque le ballon, on se dit ils vont percuter, mais à tout moment, le ballon peut vivre. Donc parfois, on a l'impression que les joueurs se freinent un peu avant d'aller au soutien, en se disant, il faut pas que j'y arrive tôt, parce que sinon, je vais commettre un avant. Mais les mecs sont beaucoup plus réactifs en face, et du coup, des ballons perdus.
Il y a une action symptomatique, hein, justement, de là, ce que tu es en train d'évoquer. C'est quand Théo Ntamack récupère la balle sur l'aile, il casse deux plaquages, il se recentre au milieu du terrain, il passe devant trois coéquipiers, et il n'y a personne au soutien au moment où il passe au sol, alors que les joueurs, ils sont quoi, à moins de 2 mètres de lui au moment où il va se faire plaquer, donc ils avaient largement le temps d'agir, et personne ne vient au soutien, Théo Ntamack se fait gratter le ballon. Et pour c'est des actions symptomatiques de ce qu'on a vu hier, c'est que déjà, je pense que les Clermontois avaient plus envie.
Après, il y a aussi la particularité du match qui fait ça. Je pense qu'ils ont été un peu suffisants. Quand tu vois que donc Kremer prend son carton orange et que tu mènes, que t'es en train de mener comme ça, tu peux te dire bon.
Oh, et puis
peut-être qu'à ce moment-là, ils ont levé le pied.
Oui, et puis en 17 disant, minutes. Et ensuite, 17 c'est ça, minutes tu prends un après jaune. Le carton orange, t'as Plummer qui se prend un jaune.
Donc là vraiment, ils sont certainement puis, dit allez, on lève le pied, on est en train de mener, ça va le faire. Et puis finalement non. Mais bon. Et puis après, il y a aussi autre chose qui
ça n'a pas bien marché en touche non plus.
Il y a eu, mais ça c'est ça, ils l'ont moins fait en deuxième mi-temps parce qu'ils ont pris les points. Mais il y a toujours ce sentiment un peu de supériorité où parfois c'est dans les cordes des buteurs d'aggraver le score et on se dit allez on va mettre un essai, on va se rapprocher en touche. Ils ont été contrés en touche pas mal de fois aussi.
Donc, sur le début de match, tu peux comprendre. Ils sont à trois essais. Tu dis bon, vas-y, on va en touche, on va assurer le bonus, etc. Parce que sur les 10 premières minutes, ça c'était quand même terrible pour Clermont. On imaginait une sacrée
performance était énorme.
Ouais, sauf que Darry Carrère à la 15e relance un petit peu le match. T'as laissé ensuite de Jauneau qui part d'une erreur aussi toulousaine, hein, parce que le ballon il est perdu un peu bêtement.
Et puis
Jauneau, à la sortie de la touche, encore une touche mal maîtrisée. Ouais, il y a eu ça aussi comme énorme problème hier, hein, parce que Marchand il se fait remplacer parce que ses lancers sont pas forcément bons.
Mais Movaca
il rentre et il en rate deux aussi. Donc tu vois, c'était compliqué sur les lancements de jeu. Et les Clermontois ils ratent aussi des pénalités. Alors bon, il y a eu ce choix de la pénalité à la 43e minute. Là, on a eu tout un débat hier avec Rémi Mességué, Alexandre Priam, sur le fait de prendre les trois points pour laisser tourner le chrono ou d'aller en touche juste avant la mi-temps. C'était un débat parallèle et on a constaté que Bautista Delgui n'est pas un buteur.
Non, mais
la stratégie est bonne. J'étais
assez d'accord sur le fait de faire tourner le chrono, tu vois.
Tu reviens, t'as retour de carton, retour de la mi-temps.
Pour clôturer la question, est-ce inquiétant pour le Stade Toulousain? Prochain déplacement donc le samedi 9 mai à 21h du côté de Toulon. On fait quoi? On envoie l'équipe type encore?
Bah ouais, mais tu vois, là, je t'aurais dit classiquement, j'aimerais pas être Toulon là, vu ce qui s'est passé, ils vont prendre cher. Mais en fait, je disais déjà ça de Clermont par rapport à Bordeaux. Et puis finalement, force est de constater que non. Ça va être compliqué d'aller gagner à Mayotte.
Clermont va mieux. Et Toulon peut peut-être même être dans une full confiance avec une demi-finale de Champions League le week-end d'avant.
Tu renvoies la grosse équipe. Il faut qu'ils se resserrent entre eux. En fait, il y a à mon goût beaucoup trop de suffisance.
Et puis Toulon,
voilà.
Toulon, mine de rien, n'est qu'à 5 points du top 6. Donc Toulon aura encore quelque chose à jouer sur ce match.
Mais là, t'envoies vraiment les cadres, par contre. Faut rattraper le coup, t'envoies les cadres.
Et là, il faut marquer le coup. Un gros score pour une semaine de 3.
Gros score, pas forcément, mais il faut que tu le remportes.
Là, moi, je suis les Toulousains. Ça part en stage commando à Montauban avec le RPIMA et compagnie. Tu vas aller te doser, tu vas aller voir du militaire, tu vas te ressouder un petit peu.
Mais même ne serait-ce que pour les autres équipes. Il faut qu'ils montrent là et qu'ils reviennent et qu'ils remontent. Voilà, c'est les
parce
leaders,
qu'ils ont fait un stage il n'y a pas si longtemps en plus les Toulousains.
Parce que les autres équipes là, elles peuvent aussi commencer à se dire tiens donc. Alors là où
dans le stage c'était plus bas. Je peux juste un petit conseil pour Hugo Mola et compagnie, on évite Marbella. Ça marche pas bien pour ceux qui suivent un peu le foot.
Pas voir Marseille.
Voilà.
Donc on est d'accord. Donc Toulouse, c'est un peu inquiétant vu des phases finales, surtout au niveau des cadres et de leur niveau actuel. En effet, messieurs, merci pour cette question. Donc c'est inquiétant pour le Stade Toulousain. N'hésitez pas à réagir vous qui nous écoutez.
Marius est au fond du trou, il est désespéré pour cette équipe toulousaine qui ne va même pas passer les barrages. Moi, je suis pas inquiet du tout.
Oui,
pour les phases finales, je sais que pendant les phases finales, ça va être un autre Toulouse.
C'est pas ça, je suis pas inquiet dans ce sens-là. Je suis inquiet sur un potentiel match.
Antoine Dupont,
un potentiel match de phase finale. Là, je suis désolé.
Ils ne savent plus faire une passe à deux mètres.
Même les autres équipes là, l'avantage qu'avait Toulouse, c'est que dès que tu vas aller affronter Toulouse, notamment en phase finale, Toulouse part forcément avec un avantage mental, puisque tout le monde peut se dire on joue quand même Toulouse, etc. Là, ce genre de match, ça prouve justement à toutes les équipes qui sont dans le top 6 que quand tu vas arriver sur une potentielle demi-finale, en plus en terrain
Toulouse
neutre...
Toulouse ne fait plus peur.
Toulouse fait toujours peur, mais où les mecs peuvent se dire « Ah là, il y a quand même le coup à jouer. Il y a quand même un coup à jouer, il y a quand même quelque chose. » Et donc, tu perds cet avantage psychologique qui est quand même
en tout cas,
importantissime là-dedans.
Avant de passer sur les autres matchs, moi, il y a un truc qui m'a fait plaisir sur cette journée, c'est que quand tu vois que tu vas à l'extérieur
justement
avec des ambitions, eh ben, tu peux faire quelque chose.
Justement, on va en parler juste pour clôturer, en effet, parce que Clermont, sur cette rencontre, c'est à Toulouse, hein, Clermont, c'est la bonne opération du week-end. On avait promis 0 points à Clermont. Clermont repart avec 4 points et donc se relance complètement dans cette course au top 6, grimpe 5e, passe devant Bordeaux-Bègles qui descend à la 6e place et surtout ressort le Racing 92 des 6 premières places. C'est la grosse opération, donc Clermont, bravo à eux. Clermont qui avait un calendrier pas favorable, mais qui, du coup, grâce à ce succès...
Qui a les cartes entre les mains désormais.
Oui, exactement, puisqu'ils recevront Perpignan, iront du côté de Pau, recevront le Racing, et enfin se déplaceront du côté de Bordeaux, une grosse fin de championnat.
C'est quand même pas des matchs faciles,
non.
Mais le fait d'avoir deux réceptions
ça
maintenant...
Ça marque les esprits, surtout.
Et puis, je pense que ça soude un groupe. Hein.
Ça soude un groupe, et ça marque les esprits quand tu sais que tu t'es Pau, et que tu es l'UBB, et que tu reçois Clermont, quand tu vois ce qu'ils ont fait du côté de Toulouse, tu dis, oh, on a intérêt peut-être à s'assurer un peu mieux avant. En effet, Quentin, tu l'as dit, les bonnes opérations du week-end, c'est les matchs, dès qu'on joue les matchs à fond, eh bien, il y a des possibilités. On pense à deux rencontres qui étaient les gros chocs de cette 22e journée. C'est évidemment le Stade Français Paris-Pau et le Bordeaux-Bègles-Montpellier-Lens. C'est mieux fini pour l'équipe qui s'est déplacée, c'est mieux fini pour les Montpellierains, messieurs, qui ont battu Bordeaux-Bègles. Quentin, Montpellier qui a fait le match... à la Montpellier. Grosse défense, agressivité maximale.
Ça ressemble un peu à celui de Clermont.
De Clermont, c'est ça.
Mais Montpellier a trouvé la recette pour eux, en tout cas. Elle fonctionne parfaitement, cette équipe du MHR. Hein, c'est 3 défaites depuis novembre. T'imagines, toute compétition confondue. Donc c'est quand même hyper impressionnant. Et puis Montpellier, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, ça prend les matchs de la même manière. S'il faut aller marcher sur l'adversaire, ça marchera sur l'adversaire. Alors c'est pas du jeu à la Toulousaine où on fait 15 passes pour aller marquer un essai. C'est on tabasse devant et ça marche avec une mêlée dominatrice. Un contre en touche là qui a parfaitement marché face à cette équipe de l'UBB à l'image de Camara
ballons,
par exemple.
4 ballons récupérés par Yacouba Camara.
Voilà, donc c'est une équipe qui est efficace. Voilà, Montpellier, c'est pas, y a pas de chichi, y a pas de fioriture. Voilà, si ça doit aller te casser la bouche, ça va te casser la bouche, mais le but c'est de gagner et ils y arrivent très très bien. Et Montpellier fait partie des deux équipes qui jouent clairement une place dans le top 2 aujourd'hui.
Marius, est-ce que du coup, on a posé la question pour le Stade Toulousain, est-ce que c'est inquiétant cette nouvelle défaite à domicile pour Bordeaux une semaine
ils ont
avant
une finale la semaine prochaine, une semaine avant la domicile un peu la tête ailleurs. Hein.
C'était une grosse équipe. Hein, de
c'est
Bordeaux.
Une grosse équipe.
Encore une
mais...
fois, enfin excusez-moi, mais je
enfin c'est une grosse équipe. Montpellier, c'est pas des rigolos. Hein.
Non, mais Montpellier, c'est pas des rigolos, mais justement
Montpellier,
quand,
c'est très sérieux. Là où c'est inquiétant pour l'UBB, c'est qu'ils sont 6e aujourd'hui.
Bah c'est ça.
Avec égalité avec le 7e. Ouais. C'est plus pour la fin de saison que c'est inquiétant.
Là,
parce qu'ils ont un match.
Là, ils vont devoir cravacher s'ils se qualifient en demi-finale. Finale.
Ils ont un match de plus.
S'ils se qualifient en finale de Champions Cup.
Ils ont potentiellement 2 matchs de plus que leurs adversaires.
C'est-à-dire, ils vont devoir cravacher un peu dans les organismes pour. C'était le problème il y a 2 ans en finale quand ils avaient pris un éclat contre Toulouse.
Ouais.
Ils étaient arrivés cramés. L'année dernière, ils étaient plus en forme, ils avaient mieux géré les organismes. Mmh. Là, s'ils doivent cravacher jusqu'au bout pour être sûr d'être dans le top 6.
Ils vont potentiellement jouer. On va dire s'ils vont
15 matchs de suite.
S'ils vont jusqu'au bout de la
15,
Coupe d'Europe
de
et
suite,
qu'ils vont en finale du top 14, ça paraît improbable qu'ils ne doivent pas passer par un barrage aujourd'hui, vu qu'ils sont 6e du top 14. Ils auront potentiellement 3 matchs de plus que leur adversaire en demi-finale.
Ouais.
Ce qui peut faire quand même pas mal. Parce que
t'es pas inquiet, toi, Marius?
Bah non, bah en fait je suis inquiet, c'est-à-dire que je mets pas
tu vois pas Bordeaux
avec tout le respect que je mets sur
après,
cette équipe bordelaise
aller.
Je vois pas Bordeaux au même statut, au même rang que Toulouse.
Non mais est-ce que tu les vois sortir du top 6?
Oui, je les vois sortir du top 6, mais ça me choque pas. Moi je les voyais pas deuxième, déjà terminé deuxième.
Attends,
cette saison
tu les vois sortir du top 6?
Non, je les vois être dedans. Je les vois sortir terminer
oui,
en phase finale.
Oui, aller en phase finale.
Mais avec un match de barrage, je les voyais pas arriver dans déjà
pour
je les voyais
moi,
pas arriver dans le top 2. Donc
pour moi début de saison, c'était top 2 Bordeaux.
C'est des équipes qui au début de saison, mais là au vu de voilà, on est qu'à ma 22e journée. Moi, j'étais plus sur cette attente-là. ça me choque pas, effectivement, c'est encore une défaite à domicile, mais bon, le derrière, ça cravache, il y a une concurrence très très rude, et non, ça me choque pas, mais comme ça ne m'aurait pas non plus inquiété, par exemple, si c'était Pau qui avait gagné, ça s'est mieux basculé pour le Stade Français, qui a fini par gagner au dernier moment, mais voilà, c'est, toutes ces équipes-là, je trouve qu'elles se valent plus ou moins toutes entre elles, et donc c'est des grosses équipes, c'est du gros niveau, et je suis pas particulièrement inquiet, non.
Mais il faudra quand même pas aller perdre à Bayonne.
Non, c'est sûr que non.
Si tu perds à Bayonne, t'as trois défaites de suite en championnat, ça commence à...
Bordeaux qui, du coup, se déplacera à Bayonne, recevra Perpignan, se déplacera à Toulon et recevra Clermont.
C'est pas cadeau, parce que Toulon, ça peut jouer une place dans le top 6 sur ce match-là. En plus, c'est un déplacement à Toulon, donc il y a un monde où, sur cette rencontre-là, tu peux sortir du top 6 et jouer ta qualif face à Clermont sur la dernière journée, et ça veut dire que tu ferais un match de barrage en plus complètement. Parce que concrètement, ce dernier match, si les deux équipes ne sont pas qualifiées, ce sera vital.
Et Montpellier, juste pour vous dire, a un calendrier bien plus favorable avec une réception de Montauban, un déplacement à Castres, réception de Pau et un déplacement du côté de Lyon.
Après, Castres-Montpellier, ça peut être ennuyeux parce que bon, Castres, a priori, n'a plus rien à jouer, mais peut choisir d'embêter Montpellier. On sait que c'est jamais facile, les déplacements à Castres. Montauban, bon... Voilà, on va en dire rien. Et puis la
record,
section...
un des records battus.
Justement. Ouais.
Et il y a un monde où, par contre, la section paloise sera déjà qualifiée et assurée d'être deuxième.
Justement, la section paloise qui n'est pas passée loin de faire un 2 sur 2 sur les deux matchs à l'extérieur qu'elle a eu.
C'est dur.
Victoire bonifiée du côté de Bayonne et défaite à la dernière seconde contre le Stade Français Paris. Est-ce que Pau, qui a complètement dominé cette rencontre face au Parisien.
Il se le perd un peu tout seul.
Je ne comprends pas la faute sifflée à la dernière minute.
Placageau sur Sekou Makalou.
Mais il a de la main, quoi.
Non, c'est un tête contre tête. Okay. Il prend Zegger, Sacha Zegger prend.
Mais déjà, parce que pendant un caché, je voyais l'arbitrage vidéo, mais sans les commentaires. Et donc, j'avais l'impression que c'était juste. En l'attrapant, il met un peu la main.
Mais là,
je me suis dit que ça était un peu sévère. Mais...
L'avantage sur cette action qui avait duré mais une éternité.
Plus de 2 minutes d'avantage.
Et heureusement, finalement, qu'il y a cette faute de Makalou, parce que sinon, ça aurait fait énormément parler. Hein, parce qu'il était parti pour revenir à la première faute.
Oui, il revient.
Mais elle était, je pense, 15 mètres plus haut et 2 minutes 30 avant, tu vois. Donc, c'était quand même assez dur.
Mais comme quoi, pour faire une petite parenthèse là-dessus.
Il se le perd tout seul, les Palois, le match. Hein.
Quand enfin des équipes décident de ne pas faire d'impasse et de jouer vraiment, eh ben, ça se passe bien. C'est bête qu'il faille attendre la 22e journée pour avoir enfin une belle affiche du dimanche soir, mais voilà, là, à l'image, Stade Français Pau, super. Bordeaux-Montpellier, super. Ah bah
je vous annonce que la prochaine journée, la 23e journée, il y aura un dimanche soir palpitant, Racing 92. La Rochelle, c'est simple, c'est continuer à rester en vie dans la course.
Et là aussi, il y a d'autres choses qui vont être intéressantes dans cette fin de saison, c'est voir où en sont les clubs en termes de GIF. De pourcentage de GIF inscrits sur les matchs, parce que si t'as une équipe qui est dans le dur et qui doit bazarder un match dans ces trucs là et envoyer 20 Français sur la feuille pour combler, ça peut être terrible aussi pour les fins de match, à voir quelles équipes ont bien géré ça aussi tout au long de la saison, hein.
Mais parce que là, en plus, ce qui est super dommage, c'est que bon, on discute de ce top 6 en gardant évidemment toujours Toulouse là-haut et en disant qu'il n'y a pas d'inquiétude pour Toulouse, mais en fait là, en voyant ce match là mais si toutes les équipes, elles n'avaient pas balancé tous leurs matchs cette saison à Toulouse, on pourrait avoir une superbe course au top 6 avec Toulouse inclus dedans. On se dirait, là, ce serait le top.
Ouais, mais donc, le match que les équipes choisissent de chez Toulouse.
Messieurs les managers de top 14, arrêtez de faire des impasses.
Mais c'est un débat que tu peux avoir depuis 15 ans avec Toulouse.
Christophe Furios, il l'a dit, moi, mais qui je serais si j'avais fait une impasse? Le mec ne fait jamais d'impasse.
Il a dit mais toujours ces grosses équipes. Comment j'aurais pu reprocher à mes joueurs de s'envoyer si j'avais fait tourner? Petit point sur le classement, messieurs, parce que c'est ce qui nous intéresse, toujours premier, donc Toulouse 72 points, suivi de Pau et Montpellier, 65 points deuxième et troisième, le Stade Français en quatrième, 63 points, toujours en embuscade pour une potentielle deuxième place, Clermont 61 points, cinquième, c'est la grosse opération du week-end, sixième, Bordeaux-Bègles 60 points, tout comme le septième, Racing 92 60 points, Toulon qui s'est bonifié à domicile 55 points, La Rochelle 54 points, neuvième, les derniers qui peuvent encore espérer s'accrocher au top 6.
Pardon.
Derrière, il y aura 10e Castres, 11e Lyon, 12e Bayonne.
Pour le top 6.
Oui, bien sûr, le top 6 de l'année prochaine. En tout cas, une chose est sûre, La Rochelle, Toulon, ils partent de plus loin, mais ils peuvent encore espérer des choses. Je le rappelle, il y a un Racing 92 La Rochelle le week-end du 10 mai. Merci beaucoup, Quentin Cabanis. Merci beaucoup, Marius Lufonçon.
Il y a quand même un Pau Castres, un Castres Montpellier, un Castres Perpignan et un Castres Toulon. Castres dans le top 6. Hein.
Oui.
Allez.
Allez.
Merci, du coup, Quentin Cabanis. Merci, Marius Chauffrançon. On se retrouve vendredi pour parler de Champions Cup, pour parler des demi-finales. Est-ce qu'il y aura peut-être une finale 100% française? Leinster, Toulon, et de le samedi 16h et dimanche 16h sera Bordeaux-Bègles. Basse. D'ici et là, n'hésitez
peut-être
pas.
Peut-être le MHR en finale de challenge.
Et exactement, le MHR qui joue sa demi-finale samedi à 13h30. D'ici là, n'oubliez pas d'aller voir tous les articles, les informations rugby sur sudradio.fr, l'application Sud Radio, et sur les réseaux sociaux Sud Radio Rugby, évidemment. Merci beaucoup et très bonne semaine.